suis Roger Malina sur Creative Disturbance. Je suis aujourd'hui avec Edmond Couchot à Paris, un des pionniers des arts informatiques, électroniques, interactifs. Alors peut-être, Edmond, tu peux te présenter rapidement.
Eh bien, écoute, c'est assez simple. Après quelques essais de peinture, je me suis intéressé peu à peu à ce qui se passait autour de moi, c'est-à-dire à toutes ces découvertes, ces interrogations de la cybernétique. Donc j'ai évolué dans ce milieu avec des relations assez serrées avec des chercheurs dans ce domaine. Et puis j'ai été donc amené à concevoir des espèces de machines cybernétiques qui étaient capables de réagir aux stimulations sonores. Donc je considérais donc ces machines comme des modèles très élémentaires de créatures plus ou moins autonomes. Et peu à peu, donc, je me suis fait connaître et j'ai été contacté par Frank Popper, qui, à la fin des années 60, avait été désigné pour monter le département d'art plastique à l'université expérimentale de Vincennes à Paris. Il m'a appelé pour faire partie donc des enseignants qu'il avait recrutés, et c'est ainsi que je suis rentré dans l'université, que j'y ai rencontré des amis qui travaillaient dans le domaine de l'informatique et qui étaient intéressés comme moi à tout ce qui se passait dans le domaine informatique et de la cybernétique. Et nous avons monté, au début des années 80, une formation universitaire qui donnait aux étudiants venus de diverses trajectoires qui leur donnait l'occasion donc de réaliser des petites œuvres artistiques, des images en particulier, avec des moyens informatiques qui étaient eux-mêmes créés par les enseignants. Voilà, et tout a évolué.
Je me permets de te couper là et réagir, parce qu'en effet, tu as tout de suite utilisé un mot qui me semble très important dans ta démarche. C'est le mot cybernétique. Et là, en effet, en préparant ce podcast, tu as un peu injecté un sujet qui te préoccupe aujourd'hui, qui me semble à des connexions avec ton intérêt sur la cybernétique il y a 30-40 ans. Peut-être tu peux élaborer cette idée que tu as sur les arts vivants.
Oui, absolument. Bon, si tu veux, précisément, donc j'avais retrouvé un lien avec mes préoccupations cybernétiques des années 60. Quand j'avais commencé à réaliser avec mes collègues et amis, Michel Brett et Marilyn Tramu, des dispositifs interactifs. Mon idée était bien de revenir aux principes fondamentaux de la cybernétique, c'est-à-dire d'une ouverture sur le milieu orientée vers une autonomie plus ou moins relative des machines. Et c'est en travaillant donc dans ce sens que peu à peu je me suis aperçu que les arts numériques avec l'interactivité finalement se développaient dans deux directions en fait, grâce à l'interactivité. Se diriger vers des dispositifs qui étaient plutôt d'ordre visuel, plastique, etc., installations diverses, et une autre direction qui était les arts vivants, c'est-à-dire des arts qui faisaient intervenir des humains, quoi, en chair et en os, des comédiens, des chanteurs, des acteurs, etc. Et j'ai découvert peu à peu que ces arts se développaient de plus en plus et commençaient à intégrer dans leur pratique des créatures artificielles, en particulier des robots. Commençais à travailler sur ce sujet. Et je m'aperçois que je veux dire qu'on est que cette relation avec les robots par le biais des arts est en train, si tu veux, de, c'est mon hypothèse, hein, est en train de fonctionner comme une espèce de pédagogie, une manière de fréquenter ces êtres artificiels, hein, sur un mode esthétique, hein, mais non pas sur un mode instrumental, ces êtres artificiels qui sont en train de devenir une espèce de une sorte de co-espèce humaine. Voilà,
Oui, absolument.
c'est non pas une post-humanité, mais
Oui.
une co-humanité.
Non, non, je comprends très bien ton argument. Et pour moi, ce qui est intéressant peut-être dans l'histoire des idées, c'est qu'en effet, la cybernétique a émergé comme concept avec la théorie des systèmes dans les années 40-50. Il y a eu plusieurs phases qui sont beaucoup focalisées en effet sur la cybernétique de premier ordre, de deuxième ordre, etc. Après, on a vu l'injection des idées sur l'intelligence artificielle, etc. Et c'est seulement dans les années 80 et 90 qu'on a vu émerger en effet les idées sur la vie artificielle plutôt que l'intelligence artificielle. Et en effet, aujourd'hui, avec les sciences de la complexité, la cybernétique, mais aussi la capacité de construire des robots qui sont suffisamment, et c'est là où ça devient, je crois, intéressant, parce qu'on n'est plus dans des algorithmes d'intelligence artificielle,
Oui,
mais
c'est
comme tu
ça, c'est
dis,
ça.
on est vraiment dans l'idée de créer des co-espèces,
Oui, c'est
c'est
ça,
quoi
des
qu'on.
coespèces, absolument, oui.
Et qu'à un certain moment, on évolue ensemble, à la limite.
Absolument, ces coespèces, si tu veux, sont en train nous réagissons avec ces coespèces et nous coévoluons avec, ce qui est quand même une rupture avec les relations qu'on avait jusqu'à maintenant avec notre environnement technologique.
Oui. Et je crois que là tu as complètement raison que les arts vivants, les arts de la scène ont beaucoup à dire. D'abord parce que la construction de ces narratifs vient d'une longue histoire dans ces arts-là. Et comment on construit les narratifs qui vont aussi influencer, je crois, le développement technique.
Oui, oui.
Et comme tu l'as dit, on n'est pas du tout dans l'idée du post-humanisme qui, à mon avis, est problématique, enfin, a d'autres problèmes éventuellement, mais dans ton idée, en effet, de la coévolution de causes-espèces, c'est intéressant de voir comment les arts peuvent agir sur l'évolution technique.
Absolument, oui. Si tu veux, il y a une évolution qui s'est faite dans le dans la technologie de l'intelligence artificielle et de la vie, qui passe, je veux dire, qui aboutit finalement au concept d'émergence, d'autonomie et d'autopoïèse, hein, avec Varela. Et c'est bien ce qui se passe avec l'environnement, avec ce nouvel environnement qui devient plus qu'un environnement. Puis il est, si tu veux, il est sécrété par nous-mêmes. Tout se passe comme s'il y avait comme si nous externalisions nos compétences créatives, à la fois conceptuelles, intelligentes et émotionnelles. Il ne faut pas oublier aussi qu'on essaye de doter ces créatures artificielles de réactions émotionnelles. Donc, il se passe quelque chose d'extrêmement complexe et qui déborde largement si tu veux, les relations qu'on pouvait avoir, qu'on a eues jusqu'à maintenant avec l'environnement traditionnel, quoi. Cet
Alors, absolument.
environnement.
Alors, Je vais me permettre de faire une remarque. Donc, pour préparer ce podcast, j'ai relu ton texte que tu as, ton mémoire que tu as écrit pour Leonardo. Je conseille à ceux qui nous écoutent d'aller le lire. Mais ce qui m'a frappé, c'est que quand tu as commencé, en effet, tu bricolais avec de l'électronique, hein, pour ton travail de base. Enfin, y a des passages très intéressants dans ton texte sur comment tu as utilisé les découvertes que tu faisais sur les comportements de l'électronique, le couplage, son image, etc. Et après, bien sûr, comme nous tous, tout le monde, on est passé à l'âge numérique et on a peut-être perdu un peu le contexte où tu as commencé, où en effet, c'était déjà de la co-création parce que là, tu crées des dispositifs, il n'y avait pas des systèmes existants. Et donc là, il me semble que tu reviens presque à tes débuts.
Oui, mais c'est exactement ça, Roger. La boucle est bouclée. Là, j'ai fait un long détour qui était sans doute nécessaire, et je reviens à mes débuts parce que, à l'origine, c'était bien ça que j'avais en tête, hein. Je voulais créer des créatures indépendantes qui échappent à un déterminisme strict mécanique ou électronique, hein. Alors j'avais trouvé des espèces de solutions faciles qui étaient pseudo-hasard, etc. Mais l'intention était bien celle-là. Je voulais créer des machines. C'est pour ça d'ailleurs que je leur ai donné des noms de personnes un peu mythiques, tu vois, des Sémaphora, etc. Donc c'était une sorte de créature complètement fantastique, quoi. Je voulais me trouver face à des créatures qui m'étonnent moi-même.
Bon, écoute, Edmond, il nous reste 2, 3 minutes pour conclure, mais je crois qu'on vient de démarrer une discussion. Donc, si tu es d'accord, on va faire un deuxième podcast pour un peu reprendre les idées.
D'accord.
Et c'est une des choses qui me frappe aussi, c'est que ta discussion là que tu as choisi de faire. On est vraiment dans une démarche recherche en art, recherche en sciences et technologies, et donc tu te situes dans un contexte qui n'a rien à voir avec l'ère institutionnelle. Et en effet, dans ton mémoire, non mais dans ton mémoire, en effet, tu remarques que à tes débuts, qu'il n'y avait pas seulement les institutions n'étaient pas intéressées, mais étaient même hostiles à tes propositions.
Oui, tout à fait.
Et là, je crois qu'aujourd'hui, tu es sur un créneau où tu te trouves exactement dans la même situation.
Oui, absolument.
C'est pas les grands musées qui vont montrer ton travail en premier lieu, parce qu'en effet, tu es dans une démarche de recherche, de développement, et de réflexion théorique, qui est en effet une démarche de chercheur.
Oui, je pense, mais enfin, il y a aussi, c'est peut-être pas parce que je suis dans une démarche de chercheur que j'intéresse pas l'art contemporain. C'est
Non,
peut-être aussi.
mais là, je crois que tu as souligné dans
Oui.
ton mémoire qu'il y avait toujours des publics intéressés, hein, donc tu as
Oui, c'est ça. Il y a
toujours.
toujours un. Oui, absolument. Il y a toujours des gens plus éveillés que d'autres, disons. Voilà, qui ont qui sont qui restent attentifs.
Bon, écoute, Edmond, on va s'arrêter là et
D'accord, on reprend alors.
on reprend notre souffle et puis on verra comment la discussion peut évoluer dans le prochain podcast.
Ouais,
Allez, merci
mais tout
Edmond,
de
toujours.
suite, tout de suite, ou tu rappelles?
Ben, écoute,
Non, une autre fois.
non, non, tout de suite maintenant.
Ah, d'accord, c'est ça, c'est ce que j'avais
Allez.
compris, oui.
Dans 2 minutes. Allez.